Bonjour et bienvenue à Pack the Pod, votre clubhouse de rugby. Alors moi c'est TK, l'américain de notre petit groupe d'amis réunis par le rugby. Donc j'ai joué au foot américain, mais aussi au rugby au folklore. Je suis très content d'être là avec Théodore de Saint-Rémy, qui a aussi joué au rugby beaucoup plus que moi, qui a joué au Racing notamment.
Oui, salut, on se connaît, mais là aujourd'hui c'est un clubhouse qui est rugby et foot américain. C'est la période actuelle qui est incroyable et qui nous a donner cette opportunité comme ça, comme quoi il faut toujours trouver quelque chose de bon, n'est-ce pas l'américain Thierry ?
Oui, il faut toujours rester positif.
Hein, toujours voir le positif dans les situations. Et effectivement, on a la semaine dernière partagé avec vous le premier épisode de notre entretien avec Richard Tarditz. Et là, on continue, on remonte sur sa machine à remonter le temps avec lui. C'est lui qui met les gaz, nous on est derrière et on s'éclate parce que c'est vraiment une expérience extraordinaire.
C'était super. On avait dit que ça serait pas mal de parler un peu de foot américain et comment ça s'organise pour un peu mieux placer les gens.
Oui, alors je pense effectivement que pour nos auditeurs et ceux parmi eux qui ne sont pas des spécialistes du foot américain, et je pense qu'il y en a quand même un certain nombre, on se rappelle simplement qu'au foot américain, il y a deux équipes qui s'opposent, ça c'est classique, une défensive, une offensive, et chaque équipe d'ailleurs change quasiment toute son équipe selon qu'elle est en phase offensive ou en phase défensive. Et grosso modo, on a un gars qui reçoit le ballon et qui l'envoie à d'autres gars qui courent et plein de mecs entre les deux qui s'affrontent pour essayer de choper soit celui qui envoie le ballon, soit celui qui le reçoit. Alors Thierry, voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que c'est un linebacker, un pass rush? Parce que Richard va à nouveau employer quelques mots comme ça, deux, trois repères.
Ok. Donc sur l'attaque, on avance le ballon en deux façons, soit par un rush,
une course
qui est faite par le running back qui court avec le ballon, soit c'est le quarterback qui lance le ballon à soit un running back ou des receveurs. En face, en défense, il y a the defensive line, leur objectif en fait c'est de plaquer le coureur avec le ballon si c'est un course, ou si c'est un lancé par le quarterback, c'est aller plaquer le quarterback avant qu'il lance la balle, et ça s'appelle un sack. Et donc Richard, il était dans un defensive end tout au long de son carrière avec University of Georgia au niveau universitaire, et en fait c'est pour ça qu'il l'appelait le sack, parce qu'il allait sacker le quarterback avant qu'il avait l'opportunité de lancer la balle. Il y a un Français qui arrive et le plaque bien sur sol, donc voilà.
And he was very good at it.
Après, dans les NFL, d'un coup il était demandé de changer sa position, donc il était plus un pass rusher. Donc il parle beaucoup de pass rusher, donc ça veut dire je cours après le passeur, qui en ce cas-là le quarterback, et il devient un outside linebacker. Donc en fait, ça change en fait ses responsabilités. Ça veut dire que son objectif n'est plus de plaquer le quarterback, mais plutôt défendre contre la course, mais beaucoup contre la passe, contre les personnes qui vont recevoir le ballon. Donc soit le faire en interception, intercepter le ballon avant qu'il l'attrape, ou plaquer les personnes après qu'ils aient rattrapé le ballon. Donc en fait, c'est un changement complet de sa position.
Ce qu'il faut en point commun, et il le dit d'ailleurs, hein, on va le voir dans l'entretien, pas de divulgation. Dans les deux cas, il faut des jambes. Hein. Voilà, c'est un garçon qui allait vite, manifestement.
Ouais. Et je pense que l'autre chose qu'on va voir aussi, c'est que, comme je dirais en anglais, c'est un vrai go-getter, ce monsieur. C'est quelqu'un qui fonce sur des choses. Il y va avec tout cœur et c'est vraiment beau à voir. Son histoire est vraiment superbe.
Alors, on y va. On fonce.
On y va. On fonce aussi. Allez, on y va. Avant de continuer avec notre entretien, je veux juste prendre un moment pour vous remercier, nos chers auditeurs. Alors, l'épisode 1 de notre interview avec Richard Tarditz était beaucoup partagé sur les réseaux sociaux, soit par notre page Facebook ou par notre site web www.packthepod.com. Donc, ça nous fait chaud au cœur. Continuez à partager, please. J'ai aussi eu un joli message d'un de mes anciens coéquipiers de foot américain. J'ai eu le plaisir de jouer avec lui chez les Falcons de Bran. Il s'appelle Damien Signori, un running back qui a joué 11 ans sur l'équipe de France de foot US et qui a participé aux sélections de NFL Europe.
Salut Thierry, écoute, je viens de terminer d'écouter le podcast. C'était mon tout premier, la première fois que j'expérimente ça et c'était génial. J'ai vraiment adoré le travail que vous avez fait. Richard Tarditz, ça me parle beaucoup parce que je vais t'envoyer quelques photos, une photo dédicacée, mais c'était mon héros quand j'ai commencé le football. J'ai fait ses camps, donc voilà, j'étais super content d'avoir des petits insights, un peu plus que j'en avais eu à l'époque et un peu plus qu'il n'y en avait eu dans les reportages qui avaient été faits sur lui sur Canal+. Donc vraiment génial, je suis impatient d'écouter du coup le deuxième numéro, donc je partage ça avec grand plaisir. Voilà.
Merci à toi, Damien. On a envie de vous entendre aussi, donc n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou par notre email info@pactepod.com. Nous allons reprendre tout de suite alors notre interview avec Richard. Là, il répond à une question sur son passage en NFL. Et, mais cette passage d'amateur vers le professionnel, quelles étaient les grandes différences?
En fait, c'est terrible. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de garantie de contrat. C'est-à-dire que ton contrat, tu le négocies avant la saison, il est divisé sur 16 semaines, 16 matchs. Ce contrat, en fait, il n'est pas garanti.
Psychologiquement, ça doit être très dur quand même, ça.
C'est très dur. C'est très dur parce que tu ne peux pas prendre plaisir, en fait. Tu préfères avoir un bon match et que l'équipe perde que toi avoir un mauvais match et que l'équipe gagne. Parce que malheureusement, c'est ton contrat qui prime.
Mais ça, par exemple, par rapport à ce que tu as vécu, ta culture de joueur de rugby avant, etc., où tu as vraiment la vie ensemble, le collectif, le match, parfois dur, gagné, perdu, après on boit des canons, et on fait parfois la fête, surtout quand on est plus jeune et pas encore trop pro et tout ça. Tu as vécu ça un peu ou c'est complètement autre chose là-bas? Il n'y a pas cet aspect, on va dire, festif, post-match, on profite, on est un peu, je ne sais pas, reconnu parce qu'on a le maillot et on a du plaisir à avoir tout ça? Ou est-ce que finalement, tu as plus de pression et d'angoisse que de plaisir?
T'as plus le plaisir là, tu l'as en universitaire parce que tu sais que tu ne peux pas te virer. Quand tu arrives en pro, te fait au début du mois de février, tu as ce qu'on appelle Medical Camp. Un camp médical d'une semaine où on te teste tes os, tes ligaments, tout, pour voir à quel poids tu peux être le plus performant. Tu as 6 mois pour arriver à ce poids-là. Pendant la saison, tous les vendredis, tu es pesé et tu as le droit d'avoir une livre en dessus ou en dessous de ce poids. Sinon, tu paies $1,000 d'amende par livre en dessous ou en dessous. C'est-à-dire que tu as une pression constante.
Oh, la vache.
T'imagines, tu n'as aucune garantie de rien du tout. Donc, tu es toujours dans le stress et le seul moyen de battre ce stress-là, c'est s'assurer que tu n'es rien trop proché. C'est-à-dire que tu es le meilleur chaque fois. Donc, tu t'entraînes, tu ne fais pas la fête, tu ne bois pas, tu assures, tu étais là à l'heure, tu donnes aucune raison à ces mecs-là de te virer, ouais, outre ta performance sur le terrain. Donc, en fait, c'est intenable. Heureusement que la saison ne fait que 4 mois.
Oui, heureusement, ça ne dure que 4 mois.
Par rapport à la NFL, ce système où tu n'as pas de garantie, en fait, ça me fait penser à le système économique aux États-Unis aussi, juste en général. Quand tu as un job, ce n'est pas garanti le jour après d'avoir le même job. Ce n'est pas comme en France où on a des CDI, ça n'existe pas, en fait. C'est un peu le même, culturellement parlant, c'est un peu le même.
Exactement.
Tout à fait, c'est le même écart, bien sûr.
Oui, à tous les niveaux. Et c'est pour ça que cette remise en cause est constante. Et des fois, ça pèse beaucoup, hein.
Ouais, donc j'entends que bon, sportivement il y a plein sur l'assiette, il y a plein de choses à faire, mais humainement pour toi d'habiter c'est à côté de Boston, est-ce que tu avais d'autres choses dans ta vie que le NFL à ce moment-là?
Alors moi j'ai toujours travaillé parce qu'en fait la NFL ça dure que 4 mois hein. La saison de foot c'est 4 mois, l'intersaison tu t'entraînes, tu fais la muscu tous les jours, mais donc tu as du temps. Et comme moi j'avais fait un MBA en finance, je travaillais moi chez Merrill Lynch qui était une boîte d'investissement, j'étais broker aussi pendant la saison, et ça me permettait, moi, comme j'avais des contacts avec les joueurs, d'avoir un fichier client qui était assez intéressant. Et donc, j'ai travaillé, moi, à Merrill Lynch à Phoenix, quand j'étais à Phoenix, et j'ai travaillé aussi à Merrill Lynch à Boston.
D'accord.
Et donc là, t'étais aussi un peu une anomalie dans ces cadres-là, t'étais le Frenchie qui joue au foot américain et qui bosse avec nous. Quoi. Ça devait être complètement improbable aussi comme statut.
Et non, Théo, c'est comme au foot, c'est-à-dire l'Amérique, il n'y a pas de copain. Tu vas d'avant. Si le mec à côté, ouais, il peut te prendre ton pote, il va te le prendre. Il y a pas ce côté-là. T'es sympa, donc je te laisse, ouais, à côté de moi. Tu vois, c'est pas ça. Et en fait, c'est tout par rapport à ta performance, ta taille de portefeuille, taille de commission. C'est que ça. Tu sais, on a une aura merveilleuse, le français aux États-Unis, oui, parce que c'est vrai que les gens, quand ils savent que t'es français, ils ont toujours des questions, mais sur la culture, sur la culture culinaire, l'histoire et tout ça. Mais quand tu es dans le business du sport ou du travail, il n'y a plus de français, anglais, tout ça. Tu es juste une personne qui va faire mieux que l'autre sur le côté, donc il faut qu'il se batte.
Ouais, c'est marrant parce que j'avais le sentiment en sortant de l'université exactement la même chose, que c'est purement la compétition, pure et dure. Et j'avais l'envie de... J'étais dans un travail de vente et c'était vraiment... Les gens étaient prêts de piquer tes clients, même dans la même société et tout. Et j'étais dégoûté, en fait. Je voulais avoir une autre expérience de travail. Ce que tu dis, c'est vraiment vrai dans l'histoire que, oui, le sport, OK, et le monde de travail, c'est exactement la même chose aux États-Unis, c'est que chacun pour soi, quoi.
Exactement. En fait, le seul regret que tu as après, c'est de dire, merde, j'aurais dû profiter de mes années universitaires, parce que c'était vraiment le seul endroit où tu n'as pas de stress, en fait. T'as pas le stress de perdre ton boulot.
Ça fait super fort parce que, bon, aux États-Unis, on a normalement 4 ans pour faire des études, mais en gros, il y a beaucoup de gens qui réussissent à faire en 5 ans hein, pour faire durer un peu plus la fête. Et normalement, cette 5e année, c'est bien sympa. Donc, au lieu de faire en 5 ans, tu avais en 4 ans, en fait, toutes tes études de MBA parce que ça fait 4 plus. Hein, toutes tes études plus ça. Donc, bravo, c'est bien fait.
Bien, enfin, grâce à ça, moi, ma dernière année, j'ai gagné ce qu'on appelle, j'étais NCAA Athlete of the Year. Et j'ai gagné la NCAA Postgraduate Scholarship, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait un chèque de $25,000 pour faire mes études supérieures, mais comme j'avais déjà fait, j'avais plus besoin, et j'ai passé mon degré de pilote d'avion avec ça.
Ah, chouette. C'est super. Il y a un moment où en fait, tu t'es arrêté, ça fait quoi, 3-4 ans que tu es dans le foot américain, tu es arrêté au niveau de blessure, mais c'est loin d'être la fin de ta carrière sportive, en fait. Donc, j'avais une question de pourquoi, je pense qu'on a touché un petit peu, mais pourquoi tu n'as pas continué plutôt dans la NFL que de partir?
Parce qu'en fait, la NFL, personne n'arrête parce qu'il veut. Tu arrêtes parce que personne ne te veut. Et donc j'ai eu une grosse blessure au genou ma dernière année chez les Patriots, dont les Patriots m'ont pas gardé, et malheureusement aucune équipe ne voulait prendre un risque sur un joueur. Bon, tu t'appelles Brady, Manning, Montana, l'équipe va prendre un risque parce que tu as un tel talent que bon, tu pourras peut-être valoir ce que tu as fait, mais un joueur moyen comme moi, tu sais, quand tu vois la pyramide du sport aux États-Unis, je disais que les jeunes, disons qu'il y a 50 000 jeunes qui sortent du lycée. Il y en a 25 000 qui vont pouvoir jouer en universitaire. Et de ça, tu vas en avoir 300 qui vont jouer en pro. Donc, les équipes n'ont pas le temps à attendre pour toi. Tu as tellement de joueurs. Il y a 3300 jeunes football américains qui sortent chaque année de l'universitaire. Tu en as 300 qui sont draftés et tu en as 80 qui ont un contrat. Donc, aujourd'hui, si tu n'es pas un super-héros, un Joe Montana ou un Tom Brady, où les mecs sont prêts à prendre un risque pour te faire rejouer quand tu as été réparé, un joueur moyen ou moins que moyen comme moi, il y a trop de mecs derrière comme moi qui me feraient plus que moi.
Ouais, il est remplacé par un plus jeune, tout à plus fait. Sûr. Et puis
tu sais, on dit que la moyenne de carrière de la NFL, c'est un an et un match. Mais il y en a qui font qu'un seul match. Il y en a qui jouent 15 ans, comme Brady. Et des mecs qui jouent ou 20 ans, et des mecs qui font qu'un seul match. Et pour être d'ailleurs, pour être retraité de la NFL, il faut avoir joué 3 ans et 3 matchs. C'est-à-dire que moi, à 50 là, ben, tu vois, au mois de juillet, j'aurai 55 ans, je vais toucher ma retraite de la NFL.
Oh, congratulations. Ouais,
mais tu vois, tu gagnes $400 par an joué, donc 4 fois 4, 16, je vais recevoir $1,600 par mois, c'est ma retraite de joueur de la NFL.
Ça, c'est génial, c'est quand même un truc absolument incroyable.
Ah oui, on dit qu'il y a ce côté très dur des Américains, mais il y a ce côté aussi où derrière, t'es récompensé derrière, tu vois, quand même, hein, on t'oublie pas, mine de rien, hein.
Là, à ce moment-là, en NFL, bon, c'est fini. Est-ce que tu le sens comment, en fait? Tu es un peu déçu? Tu as envie d'explorer le monde? Qu'est-ce que tu as fait par la suite?
Alors, tu n'es pas déçu parce qu'en fait, tu sais très bien que c'est la règle, telle est la loi. Tu sais que le jour où tu te blesses, c'est fini. Il y a trop de monde qui pousse derrière. Tu as appris à connaître le système, tu connais bien le système. Donc, tout d'un coup, tu sais, merde, je suis blessé, c'est fini. Donc, il faut trouver une autre chose. Donc là, je commence à batailler un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, je suis appelé par un mec qui s'appelle Jack Clark, qui est un dans l'aéronautique américaine, et qui a un rêve de remonter une énorme équipe de rugby américaine. D'abord, avant de dire ça, il faut que je te souligne quelque chose. Le jour où je suis drafté, un jour plus tard, je reçois un mail de Pete Rozelle, qui était le directeur de la NFL, et qui me dit, Monsieur Tarditz, Richard, on aimerait que tu deviennes américain. On veut pas qu'on puisse dire qu'il y a des étrangers qui jouent au All-American Sport. Ça fait que deux jours après mon draft, on m'a donné le passeport américain. Pour pas qu'ils puissent dire qu'il y a un étranger qui est joué à ce niveau-là dans leur sport. C'est pas incroyable,
c'est incroyable.
Ça
c'est incroyable. C'est absolument incroyable.
En 88.
Donc là, tu acceptes, tu aurais pu dire non ou tu pouvais pas dire non?
Alors, je pense que je pouvais pas dire non. Tu vois. Et puis bon, il y avait certains aussi honneurs et tu vois, tu étais ravi de pouvoir faire cette chose-là. Quoi. Donc j'étais ravi de le faire.
En fait, Richard. Bon, tu comprends que la NFL, c'est fini pour toi, tu passes à autre chose, et puis à un moment, tu reviens en France, et en France, moi, à cette époque-là, moi, je suis né en 74, tu vois, j'avais 20 ans, et on entend parler de ce mec qui revient du foot américain, qui s'appelle Tarditz. En plus, Tarditz, ça peut faire un peu américain comme nom, ça fait pas spécialement, c'est pas du fond du rang, quoi, on aurait pu se dire, c'est un Amerloc. D'ailleurs, t'avais le passeport, hein, si j'ai bien compris, et donc... T'arrives au PUC, comment tu te retrouves au PUC? Moi, à ce moment-là, je suis à côté en Ile-de-France, mais il y avait Daniel Herrero qui était une légende, qui est toujours une légende du rugby, un type incroyablement charismatique avec son bandeau, sa culture du routard et en même temps du combat, du feu sur le terrain de rugby et puis du feu aussi dans le verbe, parce que c'est un gourou ce mec des équipes de rugby. Comment tu vis ton retour entre le délire professionnel de la NFL et la bonhomie de la fin de l'associatif qui devient un peu pro du rugby français, mais c'est des mondes qui sont... Il y a plus qu'un océan qui les sépare. Comment tu vis ce retour-là ?
Alors, en fait, ce retour, il est plus professionnel qu'autre chose. Moi, en parallèle du football américain, à la fin, j'avais créé une société, Playoffs, où je vendais du matériel de sport américain en Europe. Et notamment, beaucoup, en Scandinavie, les gouvernements achètent du matériel et qu'ils mettent après à disposition de leurs écoles. Donc, je travaillais beaucoup avec les pays scandinaves, où je vendais beaucoup de ballons de basket, tout ce qui était patins de hockey sur glace, ces choses-là, que j'achetais moi, parce qu'en fait, en Amérique, les écoles, c'est des leasing qu'ils font avec des grosses compagnies comme Wilson, Rawlings et tout ça, et tous les 4 ans, ils renouvellent leur équipement. Et donc, il y a des entrepôts qui sont pleins de matériel, qui sont en parfait état de marche, mais qui ont été dans ces leasing remplacés. Voilà. Donc, moi, j'avais monté une entreprise où je vendais ça en Europe. Je vendais d'ailleurs un peu de matériel de sport américain aussi, mais c'était surtout les pays scandinaves, l'Allemagne aussi, et la Russie, où j'en vendais donc en grosse quantité ces choses-là. Et un jour, je me retrouve dans l'avion à côté d'un mec, et on commence à parler. Ah, oh, il me dit, moi, j'adore le rugby. C'était le PDG d'Onyx, qui s'appelait Yann Le Doré, qui était donc à l'époque le président du PUC, qui était aussi PDG, PDG de la Générale des Eaux, d'activité déchets. Et on arrive à parler un petit peu, il me dit, tu sais, on aimerait beaucoup se développer en Amérique du Nord, mais on connaît pas, c'est un pays qu'on connaît pas, tout ça, ça serait bien que tu viennes, tu pourrais jouer au PUC, on a un gros programme, on a pris un super entraîneur, Daniel Herrero, on a été recruter des super joueurs, on aimerait faire remonter le club en groupe A, tu viens faire 1 ou 2 ans avec nous, on te forme, tu apprends le métier un peu du traitement de déchets industriels chez nous, et tout ça, tu fais des études de marché sur l'Amérique du Nord, et tu repars là-bas dans 2 ans, parce que je voulais repartir là-bas m'installer. Ah, écoute, je lui dis, écoute, le projet, ça me plaisait super bien. Puis, tu vois, ça me disait d'avoir un boulot avec une cravate, où je pouvais mettre un peu, tu vois, en effet, un peu mon diplôme universitaire. Je vends mon affaire de sport américain aux 2 commerciaux que j'avais en Europe. Et je dis à Laurie, écoute, je prends ce poste, je viens à Paris m'installer pendant 2 ans pour apprendre le métier. Et donc.
Et à côté de ça, il te fait signer au PUC.
Et donc, je viens jouer au PUC. Là-dessus, donc on me file un appart, un super boulot à la Générale des Eaux, et puis je viens jouer au PUC avec une équipe un peu de superstars, puisqu'ils avaient recruté un super néo-zélandais qui avait joué à Nice très longtemps pour Leonard, ils avaient recruté un deuxième ligne qui venait de Auckland Blues, Simon Limmer, il y avait des très bons jeunes, Arthur Gomez, Nicolas Nadeau, Olivier Baudon, il y avait vraiment des super joueurs. On avait une très très bonne équipe avec un entraîneur à l'époque, l'entraîneur que tout le monde voulait voir, Daniel Herrero, qui amenait bien sûr, comme tu as dit Théo, sa verve, sa vision de rugby.
Bien sûr, ouais. Oui.
Donc on fait une super saison la première année où on fait remonter le PUC d'ailleurs en groupe A avec un match qu'on a été gagné à Biarritz.
À Biarritz, donc là c'était la boucle était bouclée pour toi.
La boucle était bouclée, tu vois. On va à Biarritz, on part sur Biarritz pour monter en groupe A, et Daniel me donne le rôle de capitaine, tu vois. À Biarritz, bon, c'était le retour 20 ans plus tard. J'étais parti en 85, tu vois, et en 96, 10 ans plus tard, on va bien jouer. Et donc, on fait une très belle saison la première année.
Tu joues numéro 8 là, ou flanqueur ?
Je joue numéro 7, parce qu'en fait, on avait Paul Léonard, qui était un super joueur néo-zélandais qui vivait à. Qui avait joué très longtemps à Nice, était là, et très bon numéro 8. Donc moi, je jouais flanqueur avec Eric Viol ou Franck Follet en tournée. Donc, il y avait vraiment une très belle équipe, très sympa, mais l'esprit du PUC, comme on le connaît. Donc, je retrouvais un peu ce monde du rugby avec cette bonhomie, ce plaisir de se retrouver, de passer du temps ensemble. Le plaisir de jouer au rugby parce que Daniel Herrero a plein de qualités, plein de défauts, mais une qualité qu'il a, que je trouvais extraordinaire, c'est que tu vas à l'entraînement, tu n'as jamais 2 fois de même entraînement.
Ah, ben
il va trouver, il va toujours inventer le chopement, des tactiques, des trucs. Et donc, c'est toujours un plaisir.
Et puis, quand même, Richard, pour la première fois depuis 10 ans, tu touchais au ballon.
Ça, c'est vrai. Mais bon, on a sauté une petite étape, en fait, où en 94, après ma carrière de football américain, il y a un gars qui a voulu remonter une grosse équipe de rugby aux États-Unis, qui s'appelait Jack Clark, qui avait pas mal de moyens financiers. Et on est devenu, en 95, en fait, la première équipe professionnelle. le rugby pro est arrivé en 99 dans le monde du rugby, mais nous, en Amérique, on était déjà pro depuis 95. Et il avait fait une équipe un peu d'expatriés, d'anciens français, d'anciens néo-zélandais, australiens, pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde de 95, qu'on n'a pas pu faire, et ensuite se qualifier pour la Coupe du Monde de rugby à 7 à 97, et la Coupe du Monde de 99 qui a eu lieu en Angleterre. Donc je joue, j'avais repris le rugby en 94, hein, que j'ai fait, voilà, j'ai fait les celles de 97, celles de 99.
Donc sous le maillot américain.
Sous le maillot, voilà, sous le maillot américain. Et donc j'avais quand même repris le rugby, tu vois, donc. Mais le rugby aux États-Unis, c'est pas le rugby comme tu as chez nous, quoi. Il y a une culture du rugby en France qui est inégalable nulle part ailleurs. Oh oui, on va boire, on va taper la bière à d'autres personnes, mais il y a quand même une bonhomie dans les vestiaires, tout ça, qui a vraiment qu'en France, ça, ce côté un peu du plaisir de vivre, même ces pays anglo-saxons qui ont un certain plaisir de vivre différent.
On a parlé avec Serge Betsen, avec qui Thierry a fait une interview il y a quelques jours pour notre podcast, et il nous a dit que son plus grand étonnement quand il est arrivé pour jouer au rugby en Angleterre, c'est que les mecs ne disent pas bonjour aux autres dans le vestiaire, arrivent une demi-heure avant le match, se changent, font leur match, boivent quelques bières et se cassent, alors qu'en France, effectivement, on vit avec les mecs. Et puis quand tu rentres en France, dans le vestiaire, tu dis bonjour à tout le monde. Donc même moi j'ai joué avec des Anglais ou des Australiens qui arrivaient en France pour jouer, les mecs ils hallucinaient, ils comprenaient même pas à quoi ça servait, ils finissaient par le faire mais ça les faisait marrer et ils comprenaient rien, quoi. Ça c'est vrai que ce sont des habitudes qui sont tellement différentes que c'est le monde anglo-saxon, le monde latin. Peut-être que dans les vestiaires en Italie tout le monde se dit bonjour quand même.
Peut-être, enfin, t'arrives en France, t'arrives dans les vestiaires, le sujet de conversation c'est pas le match du dimanche, c'est où c'est qu'on va manger après l'entraînement. Oh, on pourrait manger là, il paraît que c'est très bien bon. Sûr. Oh, ce mec là, il fait, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'était un plaisir énorme. Et puis bon, c'est vrai que Daniel Herrero, en plus, aidait un peu à ce côté, le plaisir de la vie, l'amour, le truc, on est là pour s'aimer avant de jouer.
La poésie, la philosophie, enfin, il allait loin. C'est un gars
très loin.
L'amour des idées, l'amour des mots, donc c'est autre chose. Tu voyages aussi dans la culture au sens large.
Mais complètement. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis, dans ma vie, j'ai une chance inouïe. Parce que je suis toujours tombé au bon endroit, au bon moment. Quelle chance pour n'importe quel joueur de rugby de pouvoir être entraîné par Daniel Herrero, à jouer à Paris, dans des conditions qui, à l'époque, Yann Le Doré, qui était le président, a mis beaucoup de choses, il a fait beaucoup d'efforts. Il nous a rendu. C'était un plaisir de jouer au PUC. On jouait au stade de Charletti, qui était tout neuf. Bon, il était vide peut-être, mais c'était merveilleux. Hein, les vestiaires, quelle chance! Combien de joueurs auraient rêvé? Et je suis rentré, j'ai joué qu'en un demi, tu vois ce que je veux dire? J'étais encore une fois de plus, j'étais au bon endroit, au bon moment. La vie m'a fait croiser des bonnes personnes et j'étais pam pam pam, tout s'enclenché comme ça. C'était une merveille. Et malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Pourquoi? Parce que, et quand Yann Le Doré a été viré, l'Amérique du Nord, ce n'était plus une priorité, c'était l'Asie. Je ne voulais pas aller à l'Asie, donc j'ai démissionné pour monter une affaire de déchets industriels en Amérique. Et bien moi, j'ai toutes les études de marché qu'on a fait en Amérique du Nord. Je les ai utilisés pour aller monter une affaire de traitement de déchets industriels aux États-Unis, à Atlanta.
Donc, tu es reparti aux États-Unis.
Exactement. En 1996, je suis reparti à Atlanta pour monter une affaire de traitement de déchets industriels que j'ai revendue 5 ans plus tard. Et en 2001, avec ma femme, on voulait voir autre chose, et mes 3 enfants, on a acheté un grand bus et on est parti pendant 2 ans faire la tournée de tous les parcs nationaux américains.
C'est incroyable.
Ma plus jeune fille qui avait 3 mois a appris à marcher dans le bus. On avait un bus, on tirait une petite Jeep et on a fait tous les parcs nationaux américains en 2 ans.
Ça devait être vraiment un voyage fantastique.
Il faut absolument faire un film.
Et je suis rentré ici et ensuite on a fini ça, on a vendu le bus, on a tous pleuré comme des enfants parce que les enfants arrivaient, ils avaient 5 ans, 4 ans, il fallait qu'ils allaient à l'école, tu vois. On pouvait pas leur faire l'école dans le bus, même si c'était une école buissonnière, mais c'était toujours dans l'Amérique n'a pas de bâtiments comme la France. Mais ils ont de l'espace, ils ont de la terre. Quand tu fais ces parcs nationaux, Big Ben, Yosemite, Yellowstone, et plein d'autres que dont tu n'as jamais parlé, Zion, Bryce, tous ces endroits qui sont mythiques
les uns que les
et
autres,
qui sont mythiques. Faits pour le transport. Tu arrives dans ces camps, tu branches ton électricité, tu branches tes égouts, tu branches ton eau, tu gonfles ton bus, et tu vois, et tu détaches ta Jeep, et tu restes là 4-5 jours, au milieu de nulle part.
C'est magnifique.
Et à passer 2 ans avec tes gosses. C'était extraordinaire. Et
donc tes enfants sont américains, Richard, ils sont nés aux États-Unis?
Oui, oui. Les trois sont nés à Atlanta. Et donc, ma fille, ma plus jeune, elle avait 3 mois, elle a appris à marcher dans le bus.
C'est magnifique.
Et puis je suis rentré en 2003, bon, après le rest is history. Tu vois, je suis rentré à Biarritz, on voulait que les enfants soient élevés quand même près de la famille. Hein. Ma femme est anglaise, tu vois, on a une famille très soudée en Angleterre. Bon, entre vivre en Angleterre ou à Biarritz, le choix était vite fait. Donc, on est rentré à Biarritz, tu vois, et pour élever les enfants, pour qu'ils connaissent leur famille. Moi, je suis basque, tu vois, Tachi, Amachi, c'est important. Pour moi, c'était très important, cette fondation familiale, de savoir que, quoi qu'il arrive, tu veux toujours rentrer chez toi, tu as toujours le nid qui est là. Et donc, on voulait que les enfants découvrent ça aussi. Et donc, on est rentré en 2003. Là-dessus, j'ai eu l'opportunité de chercher d'affaires. J'ai eu l'opportunité de racheter ce golf où il y avait une zone constructible et dans un endroit merveilleux, devant la chaîne des Pyrénées. Et voilà, quoi. Mais ça a été une période extraordinaire de rugby et ensuite de voyage.
Thierry, je crois que la première fois qu'on fera un séminaire de l'équipe du pack de potes, je sais où on ira.
On voilà, ira ça sera faire plaisir,
un petit mais... golf et à Bannière de Bigorre. Et là, je pense qu'on passera un magnifique ouais, moment.
On va se faire du golf, on va se faire la randonnée, on va aller dormir dans des refuges, vous allez voir. Parce que la nature, j'aime
donc,
ça.
Donc, tu as ton fils qui joue au foot américain aujourd'hui. Est-ce qu'il a des velléités de jouer à haut niveau ou est-ce qu'il s'éclate au niveau high school ou où est-ce qu'il en est en fait?
Non, en fait, lui, bon, et c'est comme je savais que malheureusement, pour pouvoir jouer au niveau, parce que souvent, on m'appelle souvent, oui, j'aimerais jouer au football américain en université. Le problème, c'est que maintenant, les sélections se font pratiquement en ce qu'on appelle le junior high, c'est-à-dire au niveau de la troisième et quatrième et troisième. Donc, mon fils, en fait, qui était aussi au sport-études à Bayonne de rugby, depuis la première, en fait, faisait 6 mois en Amérique, du mois de juin au mois de décembre en Amérique, à high school, pour jouer au football américain, et 6 mois en France, du mois de janvier au mois de juin, pour faire son diplôme français. Donc, il a fait sa high school là-bas, il a eu quelques stats, mais pas suffisantes pour avoir une offre par une bourse de division 1. Lui, il voulait être pilote de chasse, et donc il est parti à Florida Tech, une école d'aéronautisme où il fait des études d'ingénierie aéronautique, et il passe ses diplômes de ses qualifications de pilote, et il joue au football américain pour Florida Tech, les Panthers.
Il devrait être un des rares Français qui joue au niveau universitaire pour le foot américain.
Ah oui, parce qu'en fait, les seuls, c'est ceux qui ont vécu là-bas, hein, parce que maintenant, c'est autant à mon époque, c'était pas simple, mais aujourd'hui, je dirais, c'est pratiquement impossible. Si tu n'as pas joué en high school d'Amérique, tu joueras jamais à l'université, c'est sûr.
Et toi, tu as quand même joué au foot pour l'équipe de France de foot US aussi.
Oui, parce qu'à l'époque, ben, déjà, j'ai aussi fait du bobsleigh pour l'équipe de France. À l'époque, on joue, mon père m'envoie, il voit dans l'équipe, cherche un mec costaud et rapide pour l'équipe de France de bobsleigh pour les Olympiques de 92. Parce que j'appelle, viens essayer, pourquoi pas, tout. Donc, j'ai fait la Coupe du Monde de bobsleigh à l'équipe de France. Comme j'étais sur place, les mecs du foot américain m'ont appelé, je peux venir jouer avec nous. Donc, j'étais joué avec l'équipe de France et j'ai joué aussi avec les Sphinx de Paris, où j'ai fait des super coupes aussi. Mais tu sais, la vie est courte, il faut croquer dedans, quoi. Quand tu as une opportunité, il faut la prendre.
Est-ce que tu vois la capacité aujourd'hui pour d'autres joueurs, jeunes joueurs français de foot US d'aller faire ce que tu avais fait, d'arriver en NFL? Parce que ça arrivait avec certains joueurs d'arriver dans les camps, mais pas être signé et pas jouer. Est-ce que tu penses que c'est faisable?
Bien sûr, physiquement, tous ces joueurs, quand tu vois ces joueurs les mecs du handball, pour moi, le plus bel athlète du monde, c'est pas le joueur américain, c'est pas le joueur de rugby, c'est le joueur du handball. Et il fait 2 mètres, 2,02 mètres, il fait 105, 110 kilos, et il fait les allers-retours, tous les trucs, il se fout des coups dans la gueule tout le match, il sait faire une passe, il attrape un ballon. C'est vraiment le sportif complet, à mes yeux. Ce mec-là, il peut jouer tight end, offensive line partout. Tu mets Teddy Riner, tu le mets, il va jouer offensive tackle, il va faire une carrière de fou. Jérôme Thion, Serge Metzen, tu sais, le football américain, c'est un sport vraiment qui est d'athlétisme. T'as des qualités athlétiques, tu vas jouer quelque part. Mais le problème, c'est que pour pouvoir jouer maintenant, si tu n'es pas en quatrième, en high school, où tu as 4 ans, parce que maintenant, t'es noté avec des stars, tu vois, t'as des stars en fonction de ton niveau pour pouvoir être recruté en universitaire. C'est impossible. Mm-hmm.
Jérôme Thion, que tu citais, qui a pas mal de sélections en équipe de France, c'est vraiment un athlète. C'est vrai que c'est un gars qui d'ailleurs jouait au basket à haut niveau avant de jouer au rugby. C'est un mec qui avait une très belle détente, qui était vachement adroit, etc. Et c'est vrai qu'il aurait pu faire carrière dans n'importe quel sport. Quand t'es foutu comme ça.
Teddy Thomas, et Curia, c'est tous des super athlètes. Le problème, c'est qu'il faut rentrer dans un moule. Autant au rugby, tu peux encore, tu vois, l'expression d'athlétisme, tu vas jouer. Mais dans le football américain, tu rentres dans un moule. Si tu n'es pas dans ce moule, tu ne pourras pas jouer. Moi, j'ai vu passer des mecs qui sont très très forts et qui n'ont jamais joué parce qu'on voulait les faire jouer à gauche, alors qu'en fait, ils étaient très bons à droite. Et qu'un coach disait, non, il va jouer à gauche. Mais il était meilleur à droite. Mais il n'a jamais joué. Et à côté de ça, tu as un Français qui arrive, qui n'a jamais joué, qui joue. C'est vraiment, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, c'est le facteur chance, c'est être, comme on dit, plus simplement, être au bon endroit au bon moment ou avoir le cul bordé de nouilles. Voilà, mais écoute, j'ai le cul bordé de nouilles.
Ouais. c'est vrai. Tu avais parlé de commencer le rugby en 95, mais et pour le Major League Rugby aujourd'hui aux États-Unis, est-ce que tu penses qu'il y a des chances que ça va survivre?
Non, j'ai beaucoup de doutes pour la bonne et simple raison que c'est un sport qui n'est pas enseigné au niveau des écoles, donc tu ne peux pas créer de joueurs américains. Et donc, pour pouvoir avoir une ligue aujourd'hui, il se base sur beaucoup de joueurs des îles, Tonga, Samoa, Fidji, un peu de joueurs européens, mais très peu en fait. Et puis surtout, ils n'ont pas d'argent, quoi. Donc, il n'y a pas de droit TV. Aujourd'hui, CBS Sports, ESPN2 leur donnent un petit peu d'argent. Ils jouent dans des petites stades de high school. Ça n'a pas de visibilité. Autant tu m'aurais dit il y a quelques années que le 7 aurait pu prendre, j'aurais dit oui, parce qu'il y a ce côté spectaculaire. Tu vois, ça rentre, ça sort. C'est que 7 minutes, tu peux gérer toutes tes publicités télévisées, tout ça. Mais aujourd'hui, le rugby tel quel à 15, est-ce qu'il donne envie de regarder? Je ne sais pas. Et je pense pas que ça prendra un an.
Tu le dis très bien, c'est que c'est pas enseigné dans les écoles et que donc il y a pas de place pour sortir des.
Pas l'américain,
c'est tout. Donc ce sera hyper compliqué et les autres sports qui sont enseignés dans les écoles, ils laisseront pas la place à un autre sport. Voilà. Donc il faudrait un mec à la Maison Blanche pour décider qu'on va laisser de la place au rugby, parce que si le sport est tellement omniprésent dans la culture américaine tout le long de la scolarité, etc., que pour aller choper une place existante, quand tu vois à quel point ils ont déjà investi dans tous les sports, pour aller créer des sports sur lesquels ils ne sont pas déjà, tu pars de très très loin.
Bien sûr, mais l'anomalie, c'est le foot, le soccer, et puis ils ont eu la chance inouïe, c'est sur le marché hispanique, qui est quand même en Amérique, tu vois, le sud des États-Unis, que ce soit la Floride, l'Arizona ou même le Texas, bon, ça parle espagnol, quoi, pratiquement. Donc, ta ligue, ta Major Soccer League, la MSL, au départ, elle est partie sur Miami, et dans ces villes-là, c'est ça qui a fait partir le sport. Hein. Et aujourd'hui, quand tu vas voir les stades, tu vas voir les fusions ou n'importe quoi jouer, t'as 80% d'hispaniques, hein.
J'avais deux questions pour un peu boucler. J'ai noté que tu es arrivé dans le sud, donc dans Georgia, ton fils et ta fille, ils sont dans le sud aussi. Moi, je suis du sud des États-Unis. Qu'est-ce qui t'attire en fait du sud, of the south?
En fait, ce qui m'attire aujourd'hui, c'est l'opportunité. À l'époque, moi, ça a été l'opportunité de pouvoir aller dans une famille d'accueil, donc c'était à Augusta, mais ça aurait pu être à Texas El Paso. Hein. C'est vrai que c'était ça. J'ai joué donc à Georgia. Et puis après, bon, il est certain qu'au niveau du business, hein, t'as plus de connaissances dans ta ville qu'aujourd'hui, je vais avoir plus de chance en business à Biarritz qu'à Strasbourg. Hein. Et donc c'est pareil, donc je suis sur Atlanta, bon, tu connais l'importance du sport en Amérique, hein, l'Université de Georgia, le SAC, tout ça, c'est quand même une espèce de visa qui permet de rentrer pour voir des gens, donc au niveau business, c'était très valable. Et puis derrière, t'as des contacts, quoi, des connexions. Donc ça m'a été à Florida Tech, pourquoi? Parce que sa famille d'accueil, où il a été en high school, c'était à Athens, Georgia, hein, il était à Clark Central, qui était à Athens, moi, où j'ai joué à l'universitaire, parce qu'il a trouvé, j'ai des amis qui avaient une famille qui pouvait le recevoir, 6 mois de l'année. Et donc, de là, les connexions se font, souvent les coachs, tu vois, c'est rare qu'il y ait des coachs du Sud qui soient coachs en Nord-Ouest. Moi, ça reste quand même des petites franc-maçonneries, tu vois, d'État, et le coach de truc est conseillé là, donc tu vois, le coach qui était à Florida Tech, c'est un mec qui avait joué à l'époque à Georgia, tu vois, Frank Bobo, donc c'est bon, qu'est-ce que tu veux, c'est le business, hein, comme on te dit toujours, hein, c'est pas ce que tu sais, c'est qui tu connais, et pour au moins mettre le pied dans la porte, après c'est ton talent qui va permettre d'y rester, mais au moins pour avoir ce pied dans la porte, il y a tellement de demandes qu'il faut avoir cette connaissance, quoi, il y a certains qui, dans le sud, je connais plus de monde.
D'accord. Et en parlant des personnes qu'on connaît, j'ai noté que Bill Goldberg, le fameux catcher aux États-Unis, il a joué en même temps que toi, non, à Georgia?
Exactement, c'était mon nose guard à côté. D'ailleurs, je te donne une petite anecdote. Tu vois, comme on était testé, quand même, on était testé en collège pour les drogues ou les stéroïdes, ou alors les drogues, tu vois, pour t'amuser. Et bien, comme on était testé tous les dimanches matin après les matchs, et bien, c'est moi qui faisais pipi pour Goldberg tous les dimanches matin.
Celle-là, elle est énorme.
Tu vois. Hey, Frenchy, il m'attendait, moi j'arrivais, tu vois, il m'attendait, tu vois, les vestiaires là. Et puis quand il m'ouvrait, il disait Frenchy, prends mon verre. Alors, je prenais son verre, j'allais pisser dans les deux verres, tu vois, parce que lui, il était tellement à la fête, je voulais pas prendre de risque, tu vois.
Je pense que c'est une bonne conclusion.
Bon, Richard, franchement, merci énormément. Je pense que j'ai encore 15 questions à poser, mais peut-être ça serait pour un autre jour. Merci d'être venu à Pack de Pod. Vraiment, ça fait un vrai plaisir de parler ensemble, parler de rugby, parler de foot américain, parler de France et des États-Unis et toutes ces bonnes choses. Donc, merci énormément.
Merci beaucoup, les gars. C'est un plaisir.
Salut, Richard. À la prochaine. Et je te dis, séminaire à Bagnères-de-Bigorre dès que le Pack de Pod décide de le faire.
Quand vous voulez, je bouge pas. Merci, les gars.
Ok. Bon, merci à Richard pour ce moment passé. Franchement, j'ai trouvé que c'était super inspirant.
Oui, inspirant. Et c'est vrai qu'on a envie de parler des heures avec Richard. On a envie d'aller avec lui à Bagnères-de-Bigorre, se mettre sur la terrasse de son golf, là, et de parler, lui faire raconter encore des histoires et comprendre aussi ce qui mène les gens comme lui à réussir des destins un peu unique. Je rappelle que Richard, à ce jour, reste le seul Français qui a joué en NFL, et en échangeant avec lui, on se rend compte que ça risque de rester longtemps, parce que plus ça va, plus c'est compliqué, probablement. Ouais. Et ce que j'adore dans son histoire, moi, c'est aussi de voir à quel point ça l'a transformé, et il est devenu quelqu'un qui a un regard aussi double, parce que c'est un vrai Français, mais c'est aussi un vrai Américain. Au-delà du passeport, oui, qu'il a eu, et il raconte cette histoire-là du passeport et de la nationalité, ses enfants sont nés là-bas, il a passé 2 ans dans les parcs, enfin il est peut-être plus Américain que beaucoup d'Américains, et il le dit aussi dans son approche des choses, du pragmatisme, du regard positif sur les situations, de ne pas s'apesantir sur ce qui peut parfois être compliqué ou sur lequel on aurait envie de raisonner, d'intellectualiser. Non, on y va. Voilà, il cherchait une affaire, paf, il trouve son golf, 5 ans après, ça roule, il est à la tête de son golf, et il poursuit ses buts avec, voilà, de l'énergie positive à gogo, et c'est ça aussi l'Américain qu'il est devenu, je trouve.
Ouais, je trouve que plusieurs fois, il parle d'être at the right place at the right time, qui est d'être au bon endroit au bon moment, qui est une réponse assez humble, mais en même temps, il a dit, on n'a qu'un seul vie, donc vas-y, quoi.
C'est ça.
Donc, c'est pour ça qu'il...
Et ce que j'espère vraiment, c'est qu'en faisant ces podcasts, on veut discuter entre nous, on veut passer du temps, et on y arrive, puis on a des moments comme ça, et j'aime la manière dont tu dis, Thierry, c'est inspirant. C'est-à-dire que s'il y a des jeunes qui écoutent ce truc-là, il faut se dire, mais les gars, mais croyez en vos chances, quoi. C'est-à-dire, tentez des trucs. Comment ce mec qui part pour parler anglais pendant 1 mois devient un mec reconnu en NFL qui va toucher à 55 ans sa retraite de NFL? Mais quel est ce raccourci totalement improbable? C'est le raccourci de la vie, quoi. C'est ça qui est génial.
Et je pense que c'est une question, il a su profiter des occasions qui étaient là. Et ça, je suis vraiment admiratif. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a pour chaque réponse à une question qu'on a posée, il y avait 3 ou 4 de plus qui sortaient, parce que tellement ces réponses étaient formidables. Voici juste rapidement les histoires qu'on n'a pas pu développer en plus de détails. Voici des choses, les raisons que j'aimerais bien. Si tu n'écoutes, Richard, s'il te plaît, reviens, parce que voici les questions que j'ai. J'ai envie de savoir plus sur les 2 ans dans les bus. Où est-ce que tu es parti? C'était quoi? Comment est-ce que tu as ressenti ça? Qu'est-ce que tu as vu des États-Unis? Quel est ton walk-away avec ça? Comment est-ce que tu peux décrire les États-Unis lors de ce moment-là? Tu es un entrepreneur, tu as déjà 3 entreprises dont nous on sache. Donc, comment est-ce que tu as commencé d'être entrepreneur et sportif au haut niveau en même temps? Tu as joué au foot américain en France. Donc, j'aimerais bien savoir ton idée. Quel est l'avenir de foot américain en France? Tu es aussi commentateur quand même de Super Bowl. Comment tu as eu cette poste? Tu nous as dit que, tiens, tu étais sur l'équipe de bobsled, mais quoi? Mais c'est incroyable. Et pour finir, de USA Eagles, est-ce qu'ils ont leur chance? Mais tout ça, c'est pour la prochaine fois, je pense.
Ok, ça nous donne envie de faire un troisième épisode. Et puis, on pourra rajouter peut-être à l'ordre du jour un petit exercice de comparaison entre vos destins. Parce que même s'il y a le très haut niveau qui vous sépare, parce que ça n'est pas ton histoire, c'est la sienne, mais c'est vraiment... un Américain qui débarque en France et un Français qui débarque aux États-Unis. Vos histoires, elles ont quelque chose de miroir. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la solitude que tous les deux vous avez ressentie en arrivant, avec ce déracinement et cette absence de référence culturelle, sociale, émotionnelle peut-être, etc. Où finalement, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas partager. et comment on fait pour vivre sans partager toutes ces choses-là. Je pense que c'est vraiment un super point commun entre vous deux, et je pense que d'une certaine manière, c'est aussi le point commun entre tous les gens déracinés qui sautent le pas, qui partent dans l'inconnu, qui osent. Voilà, et ça crée des belles choses, puisque voilà, toi, quelques années après, tu as construit ta famille ici. C'est pareil, tout ça était tellement improbable le jour où tu as mis le pied sur le sol français. Ça, c'est des belles histoires, et on pourrait en parler des heures aussi.
Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je disais tout au début que j'étais un peu bouche bée, parce que c'était vraiment une discussion qui me parlait vraiment au cœur. Donc, merci beaucoup à Richard. Et merci Théo, bravo, c'est ton premier entretien, son premier interview.
Grand plaisir.
Donc, prochain épisode, normalement, c'est Tom Brady, il me semble.
Ouais, c'est ça, mais je pense que pour parler en français, ça va être un peu compliqué. Non, plus sérieusement, on a une super idée. On va vous emmener au voyage dans le temps, là aussi. La demi-finale 99, France All Blacks, qui s'était finie sur un score qu'on ne rappellera pas tout de suite, parce qu'on va revivre ce match comme si c'était passé la veille. Et voilà, petit exercice auquel on se prête avec beaucoup de plaisir, et on sait qu'il y a tellement de souvenirs magnifiques de ces moments-là que ça va vous plaire.
Allez, à très bientôt tout le monde, merci beaucoup.
Salut, bye bye, et n'oubliez pas de nous donner un petit like, un petit share, un petit comment, tout ce que vous voulez pour nous dire que vous avez vibré dans cet épisode. Bye bye.